Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces testaments qui restent en travers de la gorge. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 5 mai 2024 dans la presse. Dans les films, les histoires d'héritage qui sèment la bisbille au sein de familles fortunées nous tiennent en haleine. Dans la vraie vie, certains testaments provoquent de grandes souffrances, peu importe les sommes en cause. Une réalité qui, par la force des choses, est taboue et méconnue. J'écrivais tout récemment sur ces parents qui déshéritent leurs enfants d'une première union après avoir retrouvé l'amour. Pas moins de 30 % des hommes et 12 % des femmes agiraient de la sorte au Québec. Loin de moi l'idée de juger ceux qui n'inscrivent pas le nom de leurs descendants dans leur testament. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, certaines excellentes, d'autres qu'on pourrait qualifier de rationnelles, de revanchardes, de choquantes, d'irresponsables. L'énumération pourrait être longue. Peu importe ce qui se cache réellement derrière les choix qu'on fait en matière de legs, ils peuvent être très lourds de conséquences sur le plan psychologique. Les effets d'une telle décision ne doivent surtout pas être sous-estimés tant par les testateurs que par les notaires qui rédigent les dernières volontés. Tel est le message, ou plutôt l'avertissement, que veut transmettre une femme que j'appellerai Simone. Quand son père est mort, en 2017, il n'a pas laissé un sou à ses 4 enfants adultes. Cette décision a hypothéqué tous les membres de la famille. Un de mes frères en a fait une dépression très profonde. L'autre a eu des troubles de plus en plus sévères de comportement. Ma sœur est restée choquée à l'intérieur d'elle-même et s'est refermée comme une huître. Nous avons tous été reniés. Je n'ai pas accepté sa trahison. Pour Simone, il est inconcevable d'avoir eu une relation agréable avec son paternel, d'avoir pris soin de lui quand il était malade à la fin de sa vie, d'avoir échangé des sourires pendant des années et d'être ensuite poignardé dans le dos dans son testament. Tout ça, c'était du vent? C'est ce qui me fait souffrir tous les jours. La sexagénaire a le sentiment d'avoir été exclue de sa propre famille. Happée par mon texte, la romancière et chroniqueuse Geneviève Peterson, 98,5 et nouveau, a révélé publiquement que son père mort, à l'été 2023, ne lui avait rien légué. Jusque-là, elle en avait peu parlé, même à son entourage, malgré sa tristesse. Il y avait la honte, bien sûr, mais elle craignait aussi de passer pour une fille à l'argent, m'a-t-elle raconté. Voilà ce qui rend l'affaire aussi invisible. Comment exprimer sa douleur sans attirer les critiques et les jugements blessants? Geneviève constate que le choix de son père complique son processus de deuil. C'est un euphémisme de le dire. C'est extrêmement douloureux de faire face à cette décision immuable prise par un parent. Et ça peut être extrêmement violent d'en arriver au constat que l'on ne valait même pas 5 cents. Les deux femmes en sont convaincues. Obtenir un petit rien aurait tout changé. Ça aurait pu être une canne à pêche, une lettre, un bibelot. Un héritage, ce n'est pas une question d'argent, c'est la sensation d'avoir été important pour quelqu'un, de faire partie d'un clan. C'est pour cette raison qu'avec sa fratrie, Simone a contesté le testament pour reconstituer la famille, en quelque sorte. L'affaire s'est réglée à l'amiable. Une amie du défunt, qui l'aurait manipulé pour obtenir tous ses actifs, selon la poursuite, les a finalement partagés. Malgré tout, Simone est d'accord avec les lois québécoises qui permettent de léguer ses avoirs aux personnes de son choix, ce qui n'est pas le cas en France. Elle se questionne toutefois sur le rôle des notaires. celle qui s'occupe des affaires de toute sa famille depuis toujours et qui a changé le testament du paternel en faveur de l'ami, n'a-t-elle pas trouvé curieux que les quatre enfants soient subitement rayés du texte? Elle devait, en théorie. Mais à partir du moment où son client semblait apte à tester, pas d'altération majeure des capacités mentales, et libre de ses choix, la notaire devait respecter ses volontés, qu'elles soient raisonnables ou non. L'important, c'est que les choix soient réfléchis et compris. Bien sûr, le processus est confidentiel, pas question d'alerter les enfants déshérités. Pour minimiser les risques de contestation et faire réfléchir les parents, la notaire Cassandra Vermette pose beaucoup de questions dans ce genre de situation. C'est quoi la raison en arrière? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de gros ou c'est juste la frustration de ne pas avoir vu son enfant à Noël? Il faut faire réaliser aux gens ce que ça va créer à la lecture de déshériter un enfant ou tous les enfants. Hélas, la Chambre des notaires et le barreau ne possèdent aucune statistique sur la proportion de testaments contestés ou le nombre de causes du genre entendues par les tribunaux. Mais ça arrive et des personnes gagnent régulièrement, révèlent les recherches de Christine Morin, professeure titulaire de la faculté de droit de l'Université Laval et notaire émérite. Le motif de contestation le plus répandu est l'incapacité du testateur. Mais la justice entend aussi des causes où le défunt semble avoir été influencé de manière frauduleuse par une personne de mauvaise foi, ce qu'on appelle la captation. Avec la multiplication des familles recomposées aux organigrammes complexes, il faut s'attendre à ce que les déceptions douloureuses et les contestations soient de plus en plus nombreuses. C'était « Ces testaments qui restent en travers de la gorge », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 5 mai 2024 dans La Presse.
Le crapaud d'Amérique, discret allié des jardiniers. Un texte de Julie Hébert, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Nature sauvage. Amphibien plus terrestre qu'aquatique, il ne possède pas l'élégance de ses gracieuses cousines les grenouilles. On le qualifie même de repoussant, les propriétés de sa peau verruqueuse faisant encore les frais de nombreuses croyances populaires. Pourtant, comme Cyrano de Bergerac, le crapaud a tout pour séduire, malgré son apparence, notamment en raison de son rôle écologique inestimable. Portrait d'un animal surprenant. Le terme « crapaud » est employé pour désigner les amphibiens terrestres de la famille des Buffonidés, qui comptent près de 600 espèces à travers le monde. Les Buffonidés se distinguent des grenouilles, entre autres par leur peau sèche et rugueuse, leur préférence pour la terre ferme et leurs membres nettement plus courts. Leur présence est d'ailleurs souvent trahie par leurs bonds modestes et maladroits lorsqu'ils tentent tant bien que mal de nous fuir. On dénombre 5 espèces de crapauds au Canada, mais le crapaud d'Amérique est le seul représentant du genre au Québec. Un locataire peu exigeant. La distribution du crapaud d'Amérique couvre une vaste portion de l'est de l'Amérique du Nord, des États de la Géorgie et du nord-est du Texas jusqu'à la baie James. Au Canada, on le trouve de l'est du Manitoba jusque dans les Maritimes. Pour s'installer, cet amphibien s'accommode de peu. Un étang ou un trou d'eau permanent ou semi-permanent, où la femelle dépose ses œufs que le mâle féconde durant la ponte, et des espaces couverts de végétaux afin de chasser et de trouver un abri. Une large variété d'habitats correspond à ces deux critères, ce qui explique pourquoi le crapaud d'Amérique vit aussi bien en forêt qu'en milieu agricole, de même que dans les friches et sur les terrains privés aménagés. Sa grande capacité d'adaptation lui a permis de coloniser les espaces transformés et de cohabiter avec l'humain. Plutôt nocturne, le crapaud est davantage actif quand la température est chaude et humide. Le jour, il se soustrait aux chauds rayons du soleil en se terrant sous un porche, une pierre plate, un tas de branches, une souche ou dans du paillis. Il est habituellement fidèle à ses lieux de repos, pouvant retourner au même endroit jour après jour. On estime généralement à moins de 1 km la distance qu'il a à parcourir entre le site de ponte, le site d'hibernation et son habitat estival. Le crapaud échappe aux yeux de la majorité de ses prédateurs, notamment grâce à son immobilité et à son camouflage cryptique. D'une région à l'autre, la coloration de sa peau peut varier, mais elle peut également subir des variations momentanées, par exemple passer du clair à plus foncé, selon la température ambiante, le taux d'humidité ou le stress. Une peau toxique. Ce que plusieurs appellent à tort des verrues sur la peau du crapaud sont en fait des glandes spécialisées qui produisent une toxine d'apparence laiteuse nommée buffotoxine. Il s'agit d'un moyen de défense contre d'éventuels prédateurs qui auraient voulu lécher ou ingérer le crapaud. Même les œufs et les têtards sont considérés comme toxiques. Si toucher à un crapaud ne provoque pas l'apparition de verrues chez l'humain, comme le veut la croyance populaire, le contact de cette toxine avec les muqueuses peut cependant causer des irritations. Un opportuniste alimentaire. Si les têtards sont omnivores, les adultes sont exclusivement carnivores. Le crapaud d'Amérique est un généraliste qui mange à peu près tout ce qu'il peut entrer dans sa gueule. Une diversité d'insectes et d'invertébrés sont au menu, dont les escargots, les limaces, les fourmis, les coléoptères et les lombrics. Doté d'un appétit vorace, il peut ingurgiter quotidiennement près d'un millier d'insectes. Il est pourvu d'une langue gluante qu'il utilise pour capturer son repas. Les plus grosses proies sont poussées dans la gueule à l'aide des pattes avant. Plutôt que de boire, le crapaud s'immerge à l'occasion afin d'absorber par la peau l'humidité nécessaire à ses activités métaboliques. Puisque nombre de ces proies sont considérées comme nuisibles aux cultures et aux récoltes, ce petit batracien est un précieux allié de nos jardins. Une douce tirade de séduction. Au printemps, les mâles sont les premiers à quitter leur hibernacle et à rejoindre les lieux de ponte. Selon les régions, l'émergence peut se produire aussitôt qu'en mars, mais se situe surtout en avril. Les mâles se regroupent alors autour des étangs, des trous d'eau, des sources à faible débit et des lacs et s'octroient un espace bien à eux. Débute dès lors, tôt en soirée, leur routine de séduction qui se poursuit jusqu'en juin au Canada, suivant les régions. Le crapaud d'Amérique possède un chant caractéristique, unique, un long brrr musical aigu s'étendant sur 5 à 30 secondes. La beauté de son chant tranche d'ailleurs avec son air bourru. Durant la sérénade, la gorge des mâles, plus foncée au cours de la saison de reproduction, se gonfle comme un ballon. Cette symphonie à plusieurs attire les femelles, qui choisissent ensuite un partenaire selon la qualité de son chant et sa capacité à défendre son espace de reproduction. Rapidement, les mâles doivent sécuriser leurs chances de se reproduire en grimpant sur la femelle. Les mâles matures sont équipés de coussinets cornés sombres sur les premiers et deuxièmes orteils des pattes antérieures. Ces attributs les aident à maintenir fermement leurs membres avant autour de l'abdomen de la femelle, une position qu'on appelle l'amplexus. Ils évitent ainsi que d'autres mâles, désireux de se reproduire, les délogent de leur promise. La femelle se déplace alors jusqu'au point d'eau où elle relâche ses œufs, qui sont simultanément fertilisés par le mâle, bien ancré sur son dos. On estime que la femelle pond entre 4000 et 8000 œufs, et certains scientifiques avancent même qu'elle pourrait en relâcher jusqu'à 20 000. Les œufs, de 1 à 2 mm de diamètre, sont pondus en deux rangées uniques. Entourés d'une gélatine claire protectrice, ces filaments mesurent chacun entre 6 et 20 mètres de longueur. Les tubes gélatineux sont retenus par de la végétation ou reposent au fond dans 5 à 10 cm d'eau. Plus la température de l'eau est élevée, plus les petits éclosent rapidement, soit entre 3 et 12 jours. De couleur sombre, presque noire, les petits têtards possèdent une peau entièrement lisse. Ils atteignent au moins 1 cm de long avant d'entreprendre progressivement la métamorphose qui les conduira à la vie terrestre. Les pattes arrière apparaissent 20 jours après l'éclosion, alors que les pattes avant font leur apparition après 30 à 40 jours. Ce moment correspond également à la disparition des branchies, obligeant le crapaud en devenir à aller respirer son air à la surface. Les têtards restent groupés et se nourrissent ensemble durant les 40 à 70 jours de leur stade larvaire, puis se dispersent au moment de gagner la terre ferme et d'amorcer leur vie adulte. Les jeunes adultes n'auront à leur tour la chance de transmettre leurs gènes que vers l'âge de 2 ou même 3 ans. Une importance écologique insoupçonnée. Parce qu'ils tolèrent bien la présence humaine, les crapauds sont des partenaires importants dans la lutte contre les organismes potentiellement nuisibles qui hantent plantations et potagers. Les escargots et les limaces consomment jusqu'à 40 % de leur poids en végétaux de toutes sortes et s'attaquent sans vergogne aux légumes et aux feuillages. Le crapaud d'Amérique est l'un des principaux prédateurs de la limace et par conséquent un allié qu'il est souhaitable de garder à proximité. Il participe ainsi à la stabilité des populations d'insectes et d'autres invertébrés et donc à l'équilibre écologique des différents milieux qu'il colonise. À son tour, cet amphibien est la proie de plusieurs serpents, dont la couleuvre rayée, immunisée contre sa toxine. Certains oiseaux et mammifères s'en délectent aussi. Le raton laveur consomme le crapaud par le ventre et évite les glandes toxiques présentes sur le dos. Face aux serpents, le crapaud d'Amérique se dresse sur ses pattes et se gonfle afin de paraître plus gros et difficile à avaler. Il peut également uriner, question d'être encore moins appétissant. Les amphibiens sont généralement considérés comme des bio-indicateurs de leur milieu. Parce que leur peau est perméable à l'eau et à l'air et qu'ils se nourrissent d'une grande variété d'insectes et d'autres invertébrés, leur abondance en un lieu est habituellement signe de vitalité écologique. Grâce à son niveau d'adaptabilité élevé à une multitude d'habitats, le crapaud d'Amérique est considéré comme abondant en nature et n'est donc pas menacé d'extinction. Par contre, l'utilisation de produits chimiques en agriculture, de même que l'assèchement des milieux humides, rendent certaines populations vulnérables à une disparition localisée. En prévoyant dans sa cour des aménagements respectant les menus besoins de ces verrucus batraciens, on fera d'une pierre deux coups, soit contribuer à leur protection en plus de gagner une aide précieuse au jardin. C'était « Le crapaud d'Amérique, discret allié des jardiniers », un texte de Julie Hébert, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Nature sauvage.
Quels sont les signes de déshydratation? Un texte de Marie-Josée Roy, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge. Comment savoir si on boit suffisamment? Et quels sont les signes de déshydratation? Marie-Louise Trépanier, Cap-Rouge. La réponse de la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et membre de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Il est important de bien s'hydrater tout au long de l'année, mais c'est particulièrement vrai pendant la période estivale. Quand il fait plus chaud, on a tendance à perdre davantage d'eau, notamment par la sueur. Bref, pendant l'été, nos besoins en eau augmentent. Il faut alors s'assurer de prévenir la déshydratation dont les conséquences ne sont pas banales pour le corps. On peut être victime de ce qu'on appelle des désordres électrolytiques, c'est-à-dire des déséquilibres au niveau du taux de sodium dans le sang. Le fonctionnement des reins risque aussi d'être affecté par un manque d'eau. Des symptômes évidents. La sensation de soif est l'un des premiers signes indiquant une déshydratation. Quand notre bouche, nos lèvres et notre langue nous semblent plus sèches qu'à l'habitude, c'est que nous manquons déjà d'eau. Il faudrait toujours boire suffisamment pour ne pas sentir la soif. Une déshydratation légère à modérée se manifeste aussi à travers des urines peu fréquentes ou dont la couleur est plus foncée. On peut également se sentir affaibli, peu actif ou somnolent. En cas de déshydratation sévère, l'esprit risque notamment de montrer des signes de confusion ou d'irritabilité. Avoir des vertiges fait aussi partie des signes courants. Si l'on présente un ou plusieurs de ces symptômes, mieux vaut se réhydrater rapidement en faisant le plein d'eau grâce aux sels minéraux qu'elle contient. les boissons contenant des électrolytes et les solutions de réhydratation vendues en pharmacie sont également des options gagnantes. Attention à ce qu'on boit. Tous les liquides n'ont pas les mêmes propriétés désaltérantes. Les boissons alcoolisées, le thé, le café et les boissons énergisantes ont plutôt l'effet contraire sur le corps. Ils nous font uriner davantage. Pour maintenir une bonne hydratation, on gagne donc à miser sur l'eau, les fruits et les légumes. On trouve que ce liquide manque de goût. On l'aromatise avec des agrumes, du concombre, des baies ou des herbes aromatiques. Il existe aussi des concentrés de saveurs à base de sucre naturel. Mais c'est sûr que l'eau demeure la façon la plus saine de se réhydrater. C'était « Quels sont les signes de déshydratation ?» un texte de Marie-Josée Roy, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge.
Réclamez votre tranche des 404 millions. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 septembre 2025 dans la presse. Cette histoire abracadabrante de cartel du pain est loin d'être terminée, mais au moins, elle avance. Ceux qui ont acheté du pain entre 2001 et 2021 peuvent désormais s'inscrire en ligne pour obtenir une indemnisation. Une somme alléchante de 100 $ par personne a été évoquée devant le juge. Nous avons tous payé notre pain au moins 1,50 $ trop cher pendant des années, selon le Bureau de la concurrence. L'heure du remboursement est arrivée. Il sera possible de soumettre sa réclamation à compter d'aujourd'hui sur le site www.règlement-r-pain-p-québec-q-.ca. Ai-je appris? La date limite est le 12 décembre. Ne tardez pas, car vous risquez d'oublier. Aucune preuve d'achat n'est requise, ça va de soi. L'Oblat, maison mère de Maxi, Provigo et Pharmacie, avaient admis en 2017 avoir participé à un stratagème de fixation des prix du pain baptisé « Convention 7 sur 10 ». Cette stratégie illégale aurait permis aux entreprises ayant participé au complot d'empocher des milliards de dollars. On sait depuis un an que l'Oblat s'est entendu pour verser 404 millions aux consommateurs, question d'en finir avec les actions collectives. Mais rien n'avait bougé depuis. En ajoutant les 96 millions déjà distribués sous forme de cartes cadeaux de 25 $ il y a quelques années, le règlement totalise 500 millions. Au cabinet LPC Avocat, membre du consortium canadien qui pilote le dossier, on est convaincu qu'il s'agit de la somme la plus élevée jamais payée par une entreprise dans une histoire de collusion au pays. Reste à voir combien chacun d'entre nous obtiendra. Peut-on vraiment espérer un virement de 100 $? La somme obtenue par chaque consommateur de pain dépendra du nombre de réclamations enregistrées. On sait aussi que les Québécois se partageront 22 % des 404 millions mis de côté par l'Oblat, soit près de 89 millions. Le reste ira dans les autres provinces. Maintenant, rappelez-vous ce qui s'est produit dans le dossier de Dollarama et des Écofrais. Pas moins de 1,28 million de Québécois s'étaient inscrits pour recevoir leur part du 1,35 million sur la table. Au départ, il était question d'une indemnité de 5 à 11 $ par personne, peut-être même 15 $. Au bout du compte, victime de son succès, la somme promise a fondu à 1 $. Un maigre et ironique montant, vous en conviendrez. Le juge a d'ailleurs refusé cette distribution d'argent. Supposons maintenant que les 89 millions de l'Oblat intéressent autant de monde, soit 1,28 million de Québécois. Ce serait logique. Chacun se retrouverait avec 69 $. En réalité, le calcul est toutefois plus compliqué, car ceux qui ont déjà obtenu la carte cadeau de 25 $, ils sont très nombreux, obtiendront une somme amputée d'autant. Il en restera donc plus pour les autres. Mais d'un autre côté, il faudra retirer du montant global les frais administratifs et les honoraires des avocats. Au Québec, les deux cabinets qui pilotent le dossier, LPC et Renault et Vatlilakis, réclament près de 21 millions. La Cour ne leur a pas encore dit oui. Malgré toutes les inconnues, vous aurez compris qu'on sera bien loin du prix d'un simple paquet de baguettes. L'estimation de 100 $ n'est pas si farfelue. Ça vaut assurément le coup de prendre 2 minutes pour s'inscrire en ligne. Par la suite, ne manquez surtout pas d'encaisser l'argent qui vous sera versé par la firme Concilia au moyen d'un virement Interac. Ce n'est pas futile de le rappeler. L'avocat Joey Zucran de LPC Avocat m'a donné en exemple l'action collective contre Apple concernant sa garantie étendue AppleCare. On a réglé pour 24 millions et il reste 11 millions dans la cagnotte, dit-il, notamment parce que des sommes n'ont pas été encaissées, certains croyant avoir affaire à une fraude. Bien sûr, cette saga n'est pas terminée, car d'autres entreprises sont visées par l'action collective. Sobeys, IGA, Metro, Walmart, Tigre Géant et Canada Bread. Et à partir de maintenant, l'Oblat devra collaborer avec les avocats au dossier pour les aider à obtenir gain de cause contre les autres qui continuent de nier leur participation dans le cartel, se réjouit Maître Zucran. C'est une partie essentielle de l'entente. Cette partie du règlement, appelée Annexe D, s'étend sur plus de 8 pages. Le juge y précise dans le fin détail la liste des documents que l'Oblat devra transmettre concernant ses ventes et ses coûts, notamment. L'épicier est aussi tenu d'aider les avocats à comprendre les données, à déchiffrer le jargon et les acronymes, à reconnaître les éléments pertinents et à expliquer la chronologie des interactions entre les commerçants. Le géant ontarien est même appelé à identifier les employés et les dirigeants qui, à sa connaissance, ont participé aux décisions de tarification dans l'industrie du pain emballé. Pour ne pas être la seule enseigne à casquer, l'Oblat va certainement se faire un plaisir d'aider les avocats à bâtir la preuve qu'une stratégie de gonflement des prix à l'échelle canadienne ne peut se faire tout seul dans son coin. J'attends déjà avec impatience le prochain chapitre de ce roman qui s'écrit depuis 2001. C'était « Réclamez votre tranche de 404 millions ». Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 septembre 2025 dans la presse.